Malgré les difficultés techniques qui ne sont pas dues à un sabotage particulier, mais qui font partie de la vie juive, j'ai le plaisir et l'honneur d'ouvrir aujourd'hui le séminaire d'études juives sous la direction de notre ami le Rav Yehuda Ashkenazi. Et cette fois-ci, le thème du séminaire trimestriel, langage et universalité, la tour de Babel et la confusion des langues, dont l'objectif, c'est d'étudier la problématique du langage humain à la lumière de la tradition juive en comparaison avec d'autres systèmes de pensée. Et c'est dans ce cadre que nous commençons ce soir avec une communication de M. Alain Didier Weil sur la confusion des langues et les regards psychanalytiques. M. Alain Didier Weil, psychanalyste, est un ancien membre de l'école freudienne de Paris. Il est l'auteur d'un livre intitulé « La transmission de l'inconscient freudien ». Il a écrit aussi de très nombreux articles dans des revues spécialisées comme Littoral, Apertura, Sicilée, et dans des revues d'intérêt général comme Le Temps moderne. Et il est également auteur de nombreuses pièces de théâtre. Et l'intérêt qu'il porte à la problématique de la condition juive et de l'identité juive s'est exprimé aussi au cours de très nombreux colloques où M. Weil a participé, apportant un regard à la fois psychanalytique et historique sur de très nombreuses questions ayant trait et à la condition juive, à la problématique de la terre, au dialogue judéo-chrétien et d'autres thèmes encore. Le thème de ce soir, la confusion des langues et les regards psychanalytiques. Monsieur Weil.
Je suis embêté parce que j'ai pas de...
Ça arrive.
Quelqu'un parle, je l'écoute et je découvre qu'il y a en moi un auditeur qui entend que le dire de celui qui parle est habité ou non d'un accent de vérité. Qu'est-ce que l'accent de vérité? Je dirais, ça ne veut pas dire que ce dont le sujet parle est vrai. Objectivement, ça veut dire que le sujet qui parle est vrai. Si cette véracité peut s'entendre, c'est, je dirais, que peut s'entendre le fait que ce dont il parle, le savoir qu'il énonce, nous entendons qu'il y a dans l'être parlant en lui un assentiment qui est donné à ce dont il parle. C'est-à-dire qu'il y a une articulation que nous entendons, qui s'entend sans tromper, entre ce dont il est parlé et la présence qui parle. Entre, si on voulait parler avec des mots linguistiques, entre l'énoncé et l'énonciation. Il est tout à fait donc possible d'entendre que quand un sujet parle, il n'est pas présent dans ce qu'il dit. Et le fait que son dire puisse ne pas être habité par sa présence pose la question qui nous introduit au débat de ce colloque, c'est-à-dire qu'il peut être étranger parlant à la langue maternelle qu'il emploie, ou bien de dire que la langue maternelle dans laquelle nous parlons est en fait une langue étrangère. Alors, nous voilà plongés par là dans le thème de ce colloque. Pour autant que si la langue maternelle peut être considérée comme une langue étrangère à la langue privée de la vérité du sujet, ceci nous renvoie à cet acte décrit dans l'épisode de la tour de Babel par lequel Dieu introduit une double séparation dans le langage. Une séparation d'abord entre les différentes langues maternelles qui, se dispersant, dispersent avec elles les hommes sur la planète, et une séparation entre chaque langue maternelle et cette langue originelle, langue originaire venant de l'eau, de Dieu, qui, de ce fait, devient inaccessible, barrée. C'est surtout ce soir le point sur lequel un psychanalyste peut intervenir, c'est sur les questions que pose cette séparation entre langue maternelle et langue originelle perdue, barrée. Repérons tout de suite que le repérage d'une telle séparation entre le discours courant, sensé, que permet la langue maternelle du discours privé de la vérité du sujet n'est pas du tout l'apanage de la psychanalyse. Bien avant la psychanalyse, les humains, dès qu'ils en parlaient, ont découvert que pour rendre transmissible une certaine vérité, la prose qui était mise à leur disposition par leur langue n'était pas suffisante et qu'il fallait passer par quelque chose de l'ordre du poétique ou de la musique. Là où la psychanalyse, effectivement, introduit un approfondissement de cette question, de cette séparation, c'est dans le point suivant que je vais essayer rapidement d'introduire sans pouvoir l'approfondir dans le cadre de ce débat. Partons d'un exemple simple, parce que nous le connaissons tous. Je me réveille un matin et je me réveille avec un rêve. Dans la nuit, j'ai reçu un message totalement bizarre. Qu'est-ce qui fait que, dès mon réveil, ce message si étrange, si étranger, quelque chose me dit que je n'y suis pas étranger. Je n'y suis pas étranger, et c'est pour ça que je ne suis pas fou, car on pourrait dire que la folie, c'est ce qui se passe quand un sujet reçoit un message sans reconnaître qu'il vient de lui et qu'il nomme alors hallucination, c'est-à-dire un message qui vient objectivement de l'autre, de l'extérieur. Qu'est-ce que je découvre si j'interprète le rêve ? Je découvre que derrière ce montage bizarre, il y a une présence énigmatique qui est derrière le rêve et qui a articulé un message selon une pensée étrange, puisqu'elle est en discordance avec la pensée consciente, pour autant que la pensée consciente, sa caractéristique fondamentale, c'est qu'elle ne peut pas penser sans penser qu'elle pense. Or, l'articulation du message du rêve est articulée par une pensée dont le côté énigmatique tient à ce qu'elle pense sans penser qu'elle pense. On pourrait dire que la pensée inconsciente est extrêmement audacieuse, peut penser beaucoup plus de choses que la pensée dite consciente. Il y a une seule chose qu'elle ne peut pas penser, c'est le cogito cartésien. Elle ne peut pas penser « je pense, donc je suis ». Tenons-nous, est-ce que nous tenons avec ce sujet, le point ultime au-delà duquel nous ne pourrions pas remonter, c'est-à-dire le point de vérité absolue que les philosophes nomment l'être ? Eh bien, non. Et c'est ça qui est troublant, parce que ce que nous découvrons, c'est que le sujet dont il est question, qui articule la parole, n'est pas ce point ultime, pour autant que la parole qu'il articule, dans un rêve par exemple, c'est une parole, en fait, qu'il a reçue d'un lieu autre, d'un lieu d'altérité transcendante, et dont il est le récepteur. Et cet autre, on pourrait dire provisoirement que c'est le lieu, si vous voulez, de la loi symbolique, du symbolique. À cet égard, apportons une précision de plus sur ce qu'est ce sujet énigmatique dont je parle, et nous pouvons dire que ce sujet est un interprète. Il est la présence en nous qui interprète ce message qui vient de l'autre, et on pourrait ainsi dire que ce sujet, il se situe entre la loi symbolique, le pouvoir législatif, si on pourrait dire, et entre l'exécution de l'acte par lequel il répondra au message qu'il a reçu. Ainsi, vous voyez que dans un être humain, cette fameuse trilogie qui a été repérée par Montesquieu entre pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire est articulée pour autant qu'au niveau du sujet se situerait le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire le pouvoir d'interprétation de l'autre. Toute la difficulté, c'est que quand nous parlons, à l'instant où nous parlons, nous ne le savons pas, mais nous interprétons un message que nous recevons à notre insu. Il y a là une grande difficulté, parce que, en ce point, s'articule ce qu'est la vérité et l'erreur. La vérité, comment se pose-t-elle ? Bien, la vérité, je dirais qu'elle se pose dans le fait que quand un sujet, prenons le cas d'un tout petit, qui reçoit la parole parentale, cet autre originaire, eh bien, je dirais que quand un tout petit reçoit la parole de l'autre, il se trouve qu'il ne peut pas ne pas se tromper, je veux dire qu'il ne peut pas, je m'excuse, il ne peut pas se tromper sur le fait de la réalité, de la vérité qu'il y a dans ce message. C'est-à-dire que si l'autre lui parle et lui transmet une loi symbolique qui est faussée, altérée, si l'autre lui parle en voulant transmettre une loi qui serait d'un ordre, d'un type d'autorité qui est mensonger par rapport au symbolique, si en somme il blasphémerait sur la signification de l'altérité, eh bien le tout petit, sans avoir encore été instruit, sans avoir lu le code civil, il ne sait rien, il sait qu'il y a là un mensonge, et il répondra à ce mensonge en faisant par exemple un symptôme, par exemple, il refusera de manger, il se fera anorexique, montrant par là que ce qu'il reçoit quand il reçoit de la nourriture, c'est pas miam miam de la bouffe, c'est pas pour être rempli. Ce qu'il reçoit, c'est la façon dont le don est donné. C'est-à-dire, c'est la façon dont symboliquement cette nourriture lui transmet quelque chose de symbolique. Donc le sujet, je dirais, ne peut pas se tromper dans la façon de recevoir si le message de l'autre est vrai ou pas. Quand l'erreur commence-t-elle ? Eh bien, là est le point complexe, c'est que quand il interprète et qu'il a à agir et à répondre au message qu'il reçoit en exécutant un acte, eh bien à ce moment-là, il se passe une déficience, je dirais, c'est-à-dire que dès qu'il passe à l'acte, l'être humain rencontre le malentendu, rencontre un écart dans l'interprétation, c'est-à-dire dans la justesse de l'interprétation, et c'est ainsi qu'il fait, à son insu parfois, une erreur de justesse qui pose la question de l'injustice. Avant d'aller plus loin, je vous ferai remarquer l'écart radical qu'il y a entre l'exécution de l'acte par lequel j'interprète ce que j'entends et l'exécution de l'acte par lequel j'interprète la musique, par exemple. Car précisément, quand j'entends la musique, l'interprétation que j'en donne en dansant, par exemple, est une interprétation qui ne pose pas le type d'erreur dont je parle. Elle ne pose pas la question du malentendu, elle ne pose pas la question du vrai et du faux. Et le paradoxe de la musique, retenez-le avant que nous le reprenions éventuellement dans la discussion, cette énigme que je vous demande de garder en tête, c'est que aussitôt entendons-nous la musique, aussitôt pouvons-nous et l'interpréter, et en même temps l'interpréter par un acte. C'est-à-dire que l'exécution est immédiatement une interprétation de ce que j'entends. Ce sujet dont je parle, disons, définissons-le comme l'aptitude qui se trouve humaine à accueillir un message, le message de l'autre. Et toute la difficulté de la psychanalyse, c'est de méditer sur cet accueil qui est fait au message de l'autre Pour autant que dès que le sujet se mettra à parler, il va se produire une difficulté, c'est qu'il va tendre à oublier que cette parole lui vient de l'autre, parce qu'il va croire que cette parole, il en est l'auteur, il en est le maître. Et il va oublier, se croyant propriétaire de la parole, il va oublier qu'en fait, il est dans une dette radicale avec l'autre qui lui a transmis cette parole, dont il n'est que le dépositaire. Point énigmatique que découvre la psychanalyse, c'est que ce temps d'oubli de l'autre, employons le terme consacré par la psychanalyse, de refoulement de l'autre, est un temps qui est nécessaire à la structuration, à l'advenue de l'existence du sujet. C'est-à-dire que cet oubli de cette langue, de cette parole originaire dont le sujet est coupé, est nécessaire, j'essaierai un peu plus tard de dire pourquoi, de telle sorte que l'oubliant, se pensant maître, le sujet ne sait pas qu'il reçoit un message, l'a oublié, et de ce fait ne sait pas qu'il l'interprète, et ne sait pas qu'il l'interprète mal. En introduisant des malentendus, car l'existence de ces deux langues, langue originaire perdue et langue maternelle dans laquelle je parle, implique la nécessité d'une traduction d'une langue dans une autre. Et cette traduction se trouve être défectueuse parce que l'excès de signification qu'il y a dans la parole de l'autre ne peut pas être traductible entièrement dans la langue parlée maternelle. Elle ne peut pas, ne serait-ce que parce que l'altérité absolue qui défie le sens ne peut pas être réductible, à un discours organisé par le sens. Pourquoi cette séparation entre les langues, peut-on envisager que c'est une bénédiction? La question se pose. Eh bien, je dirais que si on peut dire qu'elle est une bénédiction, c'est parce qu'elle est l'occasion donnée à l'homme, en réalisant le mal du malentendu, de faire un retour sur l'oubli constitutif de l'autre. Et reconnaissant cet oubli constitutif de l'autre à un moment de son existence, de créer, de faire un retour sur lui-même et de créer un autre rapport de retrouvailles avec cet autre, de telle sorte que le sujet est devant un choix éthique, ou bien cet oubli de l'autre, le sujet envisagera son existence en le redoublant, en en faisant un oubli d'oubli, je ne veux rien en savoir, ou bien il prendra un autre chemin qui est celui d'une lutte contre l'oubli, de telle sorte que la lutte contre ces oublis consistera non pas à se réapproprier cette langue originaire, mais à trouver le chemin par lequel c'est le sujet qui est la propriété de cette langue originaire. Alors, dans notre vie quotidienne, comment se manifeste l'oubli de l'autre? Je vais vous donner une série d'éléments pour vous rendre cette chose sensible. En tant que la parole qui nous est donnée est une manifestation de l'altérité, est elle-même altérité, que devient la parole quand elle est dépouillée de l'altérité qui la constitue et qui l'habite et qui excède le sens qu'elle déploie? Eh bien, je dirais que quand la parole est dépositrice de cette altérité, cette forme d'altérité se traduit par le fait que quand nous la rencontrons, elle suscite en nous ce qui s'appelle l'étonnement. L'étonnement au sens fort, c'est ce qui tonne, c'est le tonnerre. Il y a un autre mot en allemand qui est encore plus fort, c'est « Verblüffung ». L'étonnement, le paradoxe de l'étonnement, si vous y songez, nous savons tous ce qu'est l'étonnement, c'est ce qui nous arrive qu'en rencontrant une dimension de l'altérité, Pour répondre à cet étonnement, nous découvrons que le savoir déjà acquis, déposé en nous, est d'aucun secours pour faire face à la situation. Il faut inventer pour être à la hauteur de la situation qui nous étonne, car le savoir déjà acquis est rendu caduc à ce moment-là. Comment se fait-il, point d'énigme, que l'étonnement soit le propre de l'enfant? Le charme de l'enfant, c'est ça, c'est qu'il est étonné par toute chose, émerveillé par toute chose. Comment se fait-il que cet étonnement qui est le propre de l'enfant déshabite, est une chose qui est perdue par le grand que nous pensons être? Comment se fait-il que l'acquisition de la raison est quelque chose qui ne laisse plus place à cet étonnement? En ceci, l'acquisition de la raison est un gain, elle est aussi une perte. Car quand nous perdons la dimension de l'étonnement, nous perdons effectivement quelque chose de très profond que voit un enfant et que nous ne voyons pas. Picasso, à cet égard, disait que ce qui dictait, ce qui organisait sa quête artistique et ce qui le guidait dans sa recherche, c'était d'essayer de retrouver le regard qu'il posait sur le monde à l'âge de 1 an. Alors, c'est un fait, quand nous sommes grands, nous regardons un objet. Je regarde par exemple ce verre. Pourquoi est-ce que, alors qu'un enfant sera émerveillé devant ce verre, pourquoi est-ce que moi je ne suis pas émerveillé? Bien sans doute parce que dès que je vois ce verre, il se fait une connexion en moi, je l'appréhende immédiatement au niveau de connexions sensées qui me font articuler ce verre à des significations comme la soif, l'alimentation, un bon repas, de l'eau des viands ou bien du Bourgogne, c'est-à-dire que c'est pris dans un réseau de significations. Alors que l'enfant qui sera étonné par ce verre, il voit tout autre chose. Et qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, je dirais, pour faire vite, qu'il a l'aptitude de saisir ce verre dans sa dimension d'existence surgissant. Et surgissant, pour que l'existe, c'est-à-dire qu'il aura la capacité, dans le fond, de se poser une question métaphysique ou artistique que nous ne nous posons plus pour avoir la paix, c'est-à-dire qu'il se pose la question « Pourquoi de l'existence plutôt que rien ? Pourquoi ça existe ?» Et il découvre le fait que pour qu'une chose existe, elle ne peut exister que parce qu'elle aurait pu ne pas exister, c'est-à-dire que parce qu'il y a une absence possible de l'objet. Rien n'existe que si, effectivement, l'absence n'est pas appréhendable. C'est pour ça que vous remarquerez le premier jeu qu'invente l'enfant et qu'invente tout enfant, c'est le jeu de cache-cache, c'est le jeu de coucou, c'est-à-dire coucou je suis là, coucou je suis pas là, c'est-à-dire que c'est un jeu par lequel l'enfant aborde le monde, les objets, par le biais de la présence-absence. C'est-à-dire que c'est en cela qu'il rencontre la parole originaire de l'autre, pour autant que cette parole originaire, bien avant le langage parlé qui donne des significations, c'est que le monde est découpé dans le fait que la présence s'articule par rapport au fait de l'absence. Et ce jeu qu'invente l'enfant, qui constitue le centre de sa vie, je vous ferai remarquer que les adultes eux-mêmes, quand nous procédons à des jeux, nous ne faisons pas autre chose que de jouer à coucou ou à présence-absence. Quand nous jouons par exemple aux cartes, il s'agit tout le temps de savoir où est l'atout, présent ou absent dans telle main. Tous les jeux de balles ou de ballons ne sont pas autre chose que le fait que cette fameuse balle, pour avoir un point gagnant, il faut arriver à l'absentifier au regard de l'adversaire. Et quand on arrive à la mettre dans ce lieu énigmatique de l'espace, c'est-à-dire dans ce trou qui est dans l'espace, qui fait que l'adversaire ne la voit pas, il y a un point gagnant. Le problème, c'est que l'enfant, n'a pas besoin... Alors, l'énigme, dans le fond, de l'adulte, c'est que, comme vous, je pense, je connais des adultes qui trouvent beaucoup plus d'intérêt dans les jeux, au foot, au tennis, quand ils participent à ces choses-là ou quand ils assistent, ils trouvent dans ces jeux un désir qui les soutient, alors que ce désir, ils n'arrivent pas à le trouver dans leur propre vie. Comme si dans leur propre vie, cette dimension de l'absence-présence ne fonctionnait pas. Et effectivement, elle ne fonctionne pas pour autant qu'elle a cédé au refoulement, à l'oubli de l'autre qui agence ce désir articulé sur le surgissement de l'existence. L'enfant n'a pas, comme l'adulte, le besoin de cliver je et vie, parce que sa vie est habitée par ce je. Il n'a pas besoin, comme l'adulte, je dirais, d'avoir recours à un illusionniste qui fait apparaître et disparaître des objets pour s'émerveiller. Lui-même s'émerveille que chaque objet est une présence qui renvoie à une absence possible, à une coulisse invisible. Une coulisse que l'adulte lui fait exister, par exemple, en inventant le théâtre, en inventant ce dispositif de la coulisse, d'où l'acteur va surgir et magiquement apporter la présence qu'il représente sur scène. Et si vous y songez, la présence étonnante de l'acteur sur scène, c'est parce que sur scène, il apporte la présence et il rend présent le lieu d'absence d'où il surgit, qui est la coulisse. Le problème, comme je vous le disais, c'est que l'enfant n'a pas besoin de ce théâtre, il le vit directement dans sa vie. Maintenant, je vais poser comment cet autre surgit-il originairement auprès du tout petit, auprès de l'infance, avant même qu'il ait la disposition de la parole. Je dirais que le tout petit, il est d'abord soumis à la présence de cet autre archaïque qui est la mère, c'est-à-dire à cet autre qui, pour des raisons énigmatiques et incompréhensibles pour lui, se manifeste comme présence ou absence. Il y a un velle exclusif, présence ou absence. Or, il se trouve que cette infance, un jour, parvient à suppléer à cet autre maternel qui réellement est présente ou absence, en découvrant que au-delà de la mère archaïque, il y a un autre type d'autre auquel obéit la mère dans ses déplacements, et que cet autre type d'autre, c'est cet autre symbolique dont je parle, qui lui représente le fait d'être non pas présent ou absent, mais qui présente l'énigme radicale d'être présent et absent en même temps. C'est quelque chose qui ne peut pas être saisissable par la pensée raisonnable et intelligible, qu'une chose puisse être présente et absente en même temps. C'est pourquoi on ne peut la rencontrer que dans ce que j'ai appelé l'étonnement. L'étonnement, c'est la perception de cette dimension de l'altérité qui transmet un type de présence, absence en même temps. Quand le petit rencontre cet autre, il s'établit un contrat avec lui. Cet autre, il est une parole, et de cet autre, tout se passe comme si le tout petit d'homme recevait une prescription qui est celle-ci, qui est « deviens ce que tu es » ou « deviens ce que je suis », c'est-à-dire une parole. Comment devenir une parole ? Pour autant qu'une parole, c'est un symbole, c'est-à-dire que c'est une présence qui évoque une absence. Eh bien, pour devenir une parole, car quand nous parlons, je voudrais que vous faire sentir ça, ça nous paraît tellement évident de parler que nous ne sommes pas capables de nous étonner de cette chose stupéfiante que nous parlons. En fait, c'est tout à fait stupéfiant de parler. Comment devenons-nous une parole ? Comment répondons-nous à cette prescription de l'autre qui nous dit « deviens parole » ? Eh bien, je dirais Nous devenons parole. Pour le devenir, il faut payer le prix. Et comment payons-nous le prix? Eh bien, je dirais que payer le prix pour devenir une parole, c'est d'instituer en nous une absence, c'est-à-dire se faire absence, c'est-à-dire d'établir, faire un certain deuil de ce que nous sommes. C'est ce que la psychanalyse, dans son charabia, appelle la castration symbolique. C'est-à-dire, je reçois la parole de l'autre, pour autant que j'arrache à mon corps une partie de mon corps et je le donne à l'autre, et ce don devient un échange symbolique qui me reviendra de l'autre par le biais de la parole. Comment ce contrat originaire où le tout petit établit ce type de contrat très énigmatique avec l'autre, comment arrivons-nous à l'oublier, comme je vous le disais? Eh bien, je dirais ceci, je suis obligé d'aller vite, c'est qu'il y a un temps d'oubli de ce rapport avec la parole originaire de l'autre. C'est quand le tout petit que nous sommes découvre un jour qu'en deçà de l'autre symbolique dont nous recevons la parole, il existe un autre type d'autre, et cet autre type d'autre, c'est notre semblable. Et quand le petit humain découvre son semblable, il va opérer une identification, devenir semblable à ce semblable, mais cette fois non plus par le biais de la parole, mais par le biais de cette idole qu'est l'image, et il va être pris dans une captation amoureuse de cette image qui va lui donner le sentiment d'une identité permanente de lui-même qu'il pourra mirer dans le miroir, et il va se prendre pour ce qu'il est. Et c'est ça, l'aptitude que nous avons tous à être fous. Être fou, c'est se prendre pour ce qu'on est. C'est se prendre pour cette image, c'est la racine de l'idolâtrie, et c'est ça qui introduit effectivement de façon structurale l'oubli symbolique de l'autre sur lequel le sujet aura à revenir si par exemple dans sa vie il fait un symptôme et devra s'interroger sur le fait que l'oubli de l'autre, quand l'autre est oublié, en fait il se venge en se transformant en un autre type de loi que la psychanalyse appelle le surmoi, qui est une loi féroce qui n'a plus rien à voir avec la loi symbolique et qui se traduit par une souffrance dans la chair. Alors, maintenant, je voudrais essayer de vous faire sentir comment se manifeste dans notre vie quotidienne cet oubli de l'autre. Je vous donne quelques exemples comme ça. Quand il y a oubli de cette dimension de l'altérité dans la parole, dit oubli de l'étonnement qui est lié à cette présence, le sujet devient quelqu'un que rien n'étonne, c'est-à-dire qui a réponse à tout. Et un sujet qui a réponse à tout, vous allez voir que fondamentalement, il ne peut pas ne pas se tromper. Un exemple amusant que cite Freud dans la trame de Tung est le suivant. Il cite l'exemple de deux voyageurs provinciaux viennois qui viennent en visite à Paris dans les ans 1900, et dans leur périple à Paris, parmi leurs visites, ils vont à l'Assemblée nationale pour assister au discours d'un orateur. Pendant le discours qui se tient à l'Assemblée nationale, il se trouve, parce que c'est l'époque des anarchistes, il se trouve qu'un anarchiste a mis une bombe à l'entrée de l'Assemblée nationale, explose. Panique dans l'Assemblée, on évacue l'Assemblée, et après, quand les esprits sont un peu calmés, des journalistes retrouvent les deux passagers viennois, et leur demandent « Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez entendu l'explosion ?» Et eux de répondre. Nous, quand on a entendu ça, on s'est dit qu'il était de coutume en France, quand il y avait un beau discours, de tirer un coup de canon pour saluer l'orateur. Voilà un exemple qui nous guette tous, c'est-à-dire devant l'étonnement, on a réponse à tout et on se gourre complètement. Ça nous montre à quel point l'excès de savoir est quelque chose d'éminemment dangereux. Hein ? On me dit qu'il ne me reste plus que 5 minutes, c'est dommage. Je vais essayer d'aller très vite alors. Cet oubli de l'autre, je dirais, il a un sens. Quand j'oublie l'autre, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'autre, fondamentalement, il m'affecte. Il m'affecte, et quand j'oublie l'autre, le bénéfice que j'en tire, c'est de ne pas être affecté par la question de l'autre, tu deviens ce que tu es, j'ai la paix, je suis tranquille, et c'est ça que la langue repère quand elle réalise une distinction entre l'intellectuel et l'affectif, découvrant qu'il y a deux domaines qui seraient séparés, l'intellectuel et l'affectif. Alors, comme je n'ai pas le temps de vous dire tout ce que je voulais vous dire, peut-être dans la discussion, je vais vous citer quand même un exemple clinique pour conclure, pour vous montrer que la psychanalyse, un des buts de la psychanalyse, c'est d'essayer de lutter contre ce clivage entre l'intellectuel et ce qui affecte. Comment la psychanalyse peut-elle arriver à ce que le sujet cesse de parler d'un point de vue intellectuel, puisse avoir une pensée, en somme, non frigide, non affectée, mais une pensée affectée. La psychanalyse découvre une chose étrange, et là je vais vous parler de ce cas clinique. Un sujet peut parfaitement, dans le cours de son analyse, se rendre compte que d'un point de vue intellectuel, il nie ce qu'il affecte. L'exemple dont je vous parle, c'est un homme qui a été séparé de son père, qui ne l'a pas connu. Qui ne l'a pas connu et qui un jour le rencontre, mais qui ne lui dit pas « tu es mon père ». Le père n'est pas au courant. Le problème, c'est que ce sujet, il sait que c'est son père, mais il le sait d'un point de vue intellectuel, il n'est absolument pas affecté par le fait que réellement c'est son père, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Vous allez voir à quel point ce qu'on appelle la dénégation en psychanalyse est opérante, c'est-à-dire qu'un sujet peut parfaitement reconnaître qu'il dénie, il peut vouloir dénier ce déni, c'est-à-dire reconnaissant qu'il n'arrive pas à reconnaître son père, il peut nier le déni, mais la négation de la négation n'est pas pour autant une affirmation. Comment rencontrer l'affirmation vraie? Je continue le cas de ce dont je vous parle. Deuxième temps, cet analysant confie un jour à un de ses amis que cet homme, appelons-le Monsieur X, est son père. Et il apprend que Monsieur X, en fait, l'a appris par l'ami à qui il s'est confié. Est-ce que ça change fondamentalement la situation? En fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce qu'en fait, ça ne change pas la situation. Il est en position de se dire, il, mon père, sait que je sais, mais il ne sait pas que je le sais. Et ça suffit, ça, pour continuer à voir son père, sans pour autant être affecté par le fait que c'est un père et que c'est autre chose qu'un savoir. Un jour, le téléphone sonne chez lui. Il n'a pas envie de décrocher. Il laisse le téléphone sonner très longtemps. Et puis, lassé, il décroche. Il se trouve que par hasard, c'est cet homme, son père, avec qui il avait noué des relations sociales. Et l'homme, le père, lui dit, est-ce qu'il y a la personne à qui il voulait parler? Le sujet lui répond, il n'y a personne. À ceci, l'homme au bout du fil lui dit, effectivement, ça sonne longtemps ici. Il raccroche. Là-dessus, bouleversement du sujet, parce qu'il entend que l'homme lui a dit, effectivement, le père sonne. Il y a une sonnerie, le père, ça sonne très fort. Et il entend aussi que quand lui a dit « il n'y a personne », il entend qu'il a dit « sonne, fils » en anglais, « je suis ton fils, fils de père ». Là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe en lui? Il se passe en lui qu'il ne peut plus, il s'est entendu, il a dit, c'est-à-dire qu'il ne peut plus dénier, et à partir du moment où il ne peut plus dénier que c'est son père d'un point de vue intellectuel, alors la connexion entre l'intellectuel et l'affectif disparaît, et alors seulement, il sanglote. Pour autant que, affectivement, en lui-même, il découvre, et dans la plus grande joie et la plus grande émotion, que, affectivement, c'est-à-dire affecté, la signification paternelle, l'assentiment premier de la présence-absence a pu arriver jusqu'à lui et il a pu dépasser la dénégation. Si j'ai encore une minute...
Vous l'avez.
Je l'ai. Si j'ai encore une minute, je voudrais dire ce point important, c'est que la déconnexion, la coupure entre la pensée qui s'exerce dans le cadre de la langue maternelle, cette coupure avec la parole originaire, c'est-à-dire ce que j'appelle cette symbolisation primordiale, elle permet, comme vous le voyez, d'établir une pensée frigide, d'établir une pensée faussée, je dirais une pensée qui banalise, qui dit des choses vraies, mais qui banalise pour autant qu'elle ne transmet pas le réel. Et peut-être, donc, pour conclure, je voudrais dire un mot sur le fait que la pensée, par la banalisation, peut aborder n'importe quel sujet, éventuellement les sujets qui peuvent paraître les plus audacieux, mais en les banalisant le plus radicalement, et en particulier le mal. Le mal peut être abordé de la façon la plus odieuse quand il est banalisé. Et comment est-ce que le mal est banalisé ? D'abord, je dirais que quand nous rencontrons le mal dans sa crudité et sa force, eh bien, pourquoi est-ce qu'il a un pouvoir scandaleux sur nous ? Pourquoi est-ce qu'il a le pouvoir, je dirais, de nous stupéfier, de sidérer l'intelligence ? Je dirais que, voyez, c'est presque comparable à ce qui se passe en nous quand nous rencontrons l'autre. C'est presque comparable. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que dans le mal, l'autre est oublié ? Je dirais non. L'autre dans le mal n'est pas oublié au sens dont j'ai parlé jusqu'à présent du refoulement. Je dirais que le mal transmet que l'autre n'est pas oublié, mais que l'autre est radicalement exclu. Il n'est même pas oublié. Parce que quand il y a un oubli, l'autre demeure. En tant qu'oublié, mais il demeure. Or, dans le mal, et c'est en cela qu'il est stupéfiant, la rencontre de l'autre en tant que radicalement expulsé est aussi stupéfiant que la rencontre de l'autre quand il se manifeste. Et ce mot encore, avant la discussion, si cette histoire du Carmel qui agite nos esprits depuis un certain temps est si bouleversante pour nous, c'est qu'il y a là la manifestation de ce que peut être une banalisation du mal, c'est-à-dire une attitude de pensée qui, là où il y a un scandale de la pensée, un scandale pour tout être humain, un scandale qui ne doit pas être le propre des Juifs, un scandale parce que le mal ne se partage, n'est la propriété de personne, parce que quand le mal est banalisé, il cesse d'être ce scandale pour autant qu'il est pensé dans la catégorie faisant l'abstraction de l'autre, en l'oubliant et en le traitant par la dimension, je dirais, comme nos deux voyageurs de commerce dont je parlais tout à l'heure, en donnant du sens à tout. Et le Carmel, si c'est scandaleux, c'est pas que les chrétiens soient chrétiens et souhaitent prier, c'est l'aptitude de banaliser le mal en voulant donner un sens, c'est-à-dire à réduire le scandale par le sens que représente le fait qu'un jour, un homme, peut-être mort de façon sainte à Auschwitz, le père Kolbe, sanctifié par le pape, pour le fait qu'il serait mort d'une façon qui reproduirait la mort du Christ et qui, de ce fait, donnerait le sens de la victoire de la croix. Et il ne s'agit pas de contester la foi chrétienne, il s'agit de repérer que la pensée dont j'essayais de parler aujourd'hui, quand elle est coupée de l'affect, quand elle est une pensée frigide, c'est une pensée qui peut tout banaliser, y compris le mal. Bon, je laisse là maintenant la place à la discussion.